Bonjour à tous, c'est un plaisir et un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. C'est la deuxième fois que je peux visiter votre église, j'étais parmi vous au mois de juin en 2014. Donc, je m'appelle Daniel Illion, je travaille pour l'association Le Sel, service d'entraide et de liaison, qui s'est donné comme mot d'ordre d'être une action chrétienne dans un monde en détresse. Et c'est de ça que je voudrais parler avec vous ce matin. Donc dans un premier temps, à partir de la Bible, et puis dans un deuxième temps, en vous présentant quelques-unes des actions que le SEL soutient avec des organisations chrétiennes locales dans des pays en développement. Le thème de la prédication, ce sera donc une action chrétienne dans un monde en détresse. Et pour le traiter, nous allons prendre comme fil conducteur un texte du livre de la Genèse, qui nous aidera, avec l'aide d'autres passages bibliques, à poser des bases sur lesquelles nous pourrons construire notre action. Nous lirons donc la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, à partir du verset 15, jusqu'au chapitre 9, verset 17. Genèse chapitre 8, verset 15 à 9, verset 17, c'est un texte qui se trouve à la fin du récit du déluge. Genèse chapitre 8, verset 15. Alors Dieu parla à Noé en ces termes: sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tout le reptile qui rampe sur la terre. Qu'il pullule sur la terre, qu'il soit fécond et se multiplie sur la terre. Noé sortit ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui rampe sur la terre selon leur genre, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte pour tout animal, de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture, je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang, mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal. Et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit: voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Le texte que nous venons de lire nous montre comment Dieu permet un nouveau départ pour ses créatures terrestres après le déluge. Mais tout ne recommence pas à zéro. Avant le déluge, il nous était dit, Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » Et notre texte nous dit, l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. » Les humains n'ont donc pas changé. Ils sont toujours portés au mal, malgré le jugement spectaculaire qu'a été le déluge. Avant, leur cœur ne concevait que le mal, et après, leur cœur est porté au mal dès sa jeunesse. Le cœur de l'homme est toujours le même. Et le tableau que notre texte nous dresse des relations entre l'homme et les animaux, et entre les humains entre eux, évoque la violence, une violence qu'on ne trouvait pas au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre. Nous vivons dans un monde déchu. Et Dieu ne crée pas un nouveau jardin d'Éden après le déluge. Avec le péché qui reste là, avec une humanité déchue et une création qui est, comme le dit l'apôtre Paul, soumise à la vanité, Romains chapitre 8, versets 20 et 21, il y a malheureusement place pour beaucoup de souffrances, beaucoup de frustrations, beaucoup de conflits et aussi pour la pauvreté dans le monde. Oui, nous vivons dans un monde en détresse. Mais Dieu n'abandonne pas l'humanité ni l'ensemble de sa création. Tant les humains que les animaux sont appelés à multiplier sur la terre. Et alors que la pente normale du péché va vers la mort et la destruction, Dieu annonce qu'il fait alliance avec tous les êtres vivants qui sont sur la terre et même avec la terre elle-même, chapitre 9, verset 13. Et l'un des éléments clés pour comprendre la manière dont Dieu fait continuer la vie dans un monde marqué par le péché et par la souffrance consiste dans le fait que Dieu met en place un cadre dans lequel la vie humaine est possible. Un cadre stable qui rend la vie possible. Chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu est le Dieu de toute la réalité. Il n'est pas seulement le Dieu d'un domaine spirituel, le Dieu de l'Église, mais il est le Dieu de toute la réalité qui est à l'œuvre dans notre quotidien, dans les cycles de base de toute l'existence, l'alternance du jour et de la nuit, des temps et des saisons. Il est celui qui rend possible l'agriculture et qui répond ainsi à ce besoin de base de tout être humain, manger. Et ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il ne s'occupe pas seulement des croyants. L'apôtre Paul dira aux païens de Lystre, Actes chapitre 14, versets 16 et 17, « Dans les générations passées, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. » Dieu fait du bien, même à des personnes qui marchent dans leur propre voie. Et vous savez ce que ça veut dire, marcher dans ses propres voies? Ça veut dire tourner le dos à Dieu. Dieu fait du bien à des gens qui lui tournent le dos, en leur accordant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en les comblant de nourriture et même de bonheur. Et même de bonheur. Parfois, nous parlons aux non-chrétiens comme si nous disions « mais il y a dans ta vie forcément un grand malheur ». c'est vrai que beaucoup de non-chrétiens sont malheureux, mais parfois aussi ils sont heureux parce que Dieu les comble de bonheur. Et en fait, le problème d'un non-chrétien, c'est pas qu'il est malheureux, le problème d'un non-chrétien, c'est qu'il est perdu. Et c'est pas forcément exactement la même chose. Des fois, ça va ensemble, mais pas toujours. Le vrai problème d'un non-chrétien, c'est qu'il est perdu. Et pourtant, Dieu fait du bien à tous. Et ça veut dire quelque chose de très simple. C'est que comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon et il manifeste sa bonté. Il est bon et il est la source unique de tout bien. Le texte de la Genèse nous montre d'ailleurs que Dieu ne prend même pas soin uniquement des humains. Il se préoccupe aussi des animaux et de la terre. Il est le Dieu de la création et de la providence, c'est-à-dire le Dieu qui maintient et qui soutient dans l'être tout ce qu'il a créé et qui conduit toutes choses selon son plan. Alors si Dieu n'a pas abandonné l'humanité et la terre, nous ne devrions pas nous en désintéresser, nous non plus. Dieu a pourvu à un cadre stable pour l'humanité. C'est pour que nous investissions ce cadre et que nous y trouvions notre place. Si Dieu a fait un cadre dans lequel, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas, c'est pour que nous vivions sur cette terre pour la gloire de Dieu et pour le bien de notre prochain. Dans notre famille, dans notre travail, à l'école, dans nos études, dans nos relations avec nos amis, avec nos proches, et de façon générale, au sein de la société humaine. L'idéal de la vie chrétienne, ce n'est pas de s'occuper uniquement de questions spirituelles et de se désintéresser de la société et des problèmes qui la caractérisent, mais c'est de faire tout pour la gloire de Dieu, même les choses les plus ordinaires et les plus banales qui soient, et aussi l'action sociale, donc. Dieu a posé un cadre dans lequel la vie humaine est possible. Mais les humains ont la responsabilité d'investir ce cadre, de travailler dans ce cadre, semer et moissonner, pour prendre les termes de notre texte. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent marginalisées dans la société humaine. Certains n'ont pas suffisamment pour satisfaire à leurs besoins de base. On estime aujourd'hui que 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. D'autres encore subissent diverses formes d'injustice. Pour ceux qui souffrent, il n'est pas si facile de trouver sa place dans le cadre que Dieu a posé pour la vie humaine. Et c'est là que l'action sociale se situe. Il s'agit d'aider les plus faibles à vivre mieux au sein de ce monde marqué par la souffrance. Et lorsque nous menons une action chrétienne dans un monde en détresse, nous rendons témoignage au Dieu de Noé, qui n'a pas abandonné la terre ni l'humanité. Au sein d'un monde déchu et marqué par la souffrance et par la violence, Dieu prend des mesures pour protéger la vie humaine. Il est dit qu'il réclamera le sang humain quand il aura été versé. Vous voyez, dans notre texte, il n'est pas question explicitement d'aimer son prochain, et encore moins d'aimer son ennemi, ou d'aider les pauvres. Il est seulement question du meurtre, pour dire que c'est grave. Et ça peut nous sembler très peu. Après tout, pour bien vivre sur cette terre, il ne suffit quand même pas que les humains s'abstiennent de s'entretuer. Il faut un petit peu plus. Oui, c'est vrai, mais ça commence par là. Et ceux qui vivent dans des situations de guerre ou de violence extrême pourraient en témoigner. L'une des caractéristiques de la vision biblique du monde, c'est son réalisme. Une implication sociale qui se fonde sur la Bible ne cherchera pas à transformer le monde en un paradis où tout le monde s'aime, mais commencera par tenir compte de la dureté du cœur de l'homme et par chercher à limiter le mal. Et dans notre texte, limiter le mal, ça veut dire, premièrement, la vie humaine est précieuse et on ne s'entretue pas. Maintenant, si on regarde notre texte de près, nous verrons qu'il donne deux raisons pour lesquelles le meurtre est quelque chose de grave. Et si on pousse ces raisons dans leur logique, comme le reste de la Bible le fait, nous verrons que ça peut nous entraîner dans une action positive à l'égard de notre prochain et à l'égard du pauvre. Quelles sont les deux raisons? Chapitre 9, verset 4, « Je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. » Alors certaines traductions, comme la Bible du Semeur, rendent ce verset « Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. » Alors on peut discuter la nuance exacte du terme, est-ce que c'est frère ou est-ce que c'est semblable? Les deux traductions paraissent possibles, mais dans tous les cas, ça désigne quelqu'un qui m'est proche. Je sais que les chrétiens ont l'habitude de ne pas forcément utiliser le mot « frère » pour parler de tous les humains, et il y a des bonnes raisons pour cela. Mais quoi qu'il en soit, notre texte dit aussi « Je réclamerai à tout homme la vie de l'homme qui est son frère ». Ça ne veut pas dire « frère en Christ », c'est un sens plus faible du mot « frère », mais ça veut dire que face à tous les êtres humains, nous devrions nous dire « Lui aussi, il descend d'Adam ». Et ça crée un lien entre lui et moi. Nous avons des devoirs d'humanité à l'égard de ceux qui sont nos semblables. Paul écrira « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Alors nous avons une responsabilité particulière envers nos frères et sœurs en Christ. Mais ça ne doit pas nous faire oublier le « envers tous », envers ceux qui sont nos semblables, ceux qui descendent d'Adam comme nous. Ça, c'est la première raison pour laquelle le meurtre est grave. Parce que ben, nous avons des liens avec tous les humains. Après avoir souligné la proximité qui existe entre les humains, Dieu ajoute une raison décisive pour expliquer la gravité du meurtre. L'homme a été créé en image de Dieu. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. On ne peut pas toucher à un être humain sans viser son créateur. Il est gravissime de commettre un meurtre parce que mon prochain n'est pas seulement mon semblable, mais il est aussi celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors notre texte pose des bases. Il nous dit que l'autre être humain est mon semblable, mon frère. Il nous dit que l'autre être humain est créé en image de Dieu. La seule conclusion qui en est tirée, c'est que le meurtre, c'est grave. Mais si on continue le fil de la Bible, on se rend compte qu'il est possible de tirer des conclusions dans le sens d'une action positive à partir de ces deux vérités. Par exemple, le livre des Proverbes dira « Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait, mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. » Proverbes chapitre 14, verset 21. Là, c'est la vérité de « Nous avons été créés en image de Dieu, donc la manière dont on se conduit à l'égard des pauvres dit quelque chose de notre relation avec Dieu. » Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit, en parlant du secours à apporter aux pauvres, « Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Ésaïe 58, verset 7. Là, c'est plutôt l'idée du semblable. Il est ta propre chair, il t'est proche. Tu ne peux pas dire « Il ne me concerne pas. » Et quand Jésus énoncera le plus important de tous les commandements de la loi, celui de l'amour de Dieu, il ajoutera « Un second commandement, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer son prochain est semblable à aimer Dieu. Pourquoi semblable? Je crois que la meilleure explication, c'est parce que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu accorde du prix à l'humanité. Notre texte le montre en parlant de la protection des humains contre le meurtre, mais les raisons qui sont données, l'autre est ton semblable ou ton frère, l'autre est créé en image de Dieu, posent les bases pour une action positive à l'égard de notre prochain, quel qu'il soit. Pour le chrétien, l'implication en faveur des pauvres trouve son sens dans le fait que tous les humains sont proches les uns des autres et qu'ils ont tous été créés en image de Dieu. Alors nous avons vu que les humains n'ont pas vraiment changé après le déluge. Ils étaient pécheurs avant, ils restent pécheurs après. Mais ce qui peut sembler étrange, c'est que Dieu, qui est le Dieu qui ne change pas, semble avoir changé d'attitude. Dans Genèse, au chapitre 6, Dieu voit le péché et il dit « déluge ». Dans notre texte, il voit le péché qui est le même et il dit « plus jamais de déluge ». Comment expliquer le fait que, face à une situation qui semble être exactement la même, Dieu semble prendre des mesures qui sont exactement opposées? Eh bien, en réalité, si on regarde le texte, il y a une différence entre les deux situations. Et cette différence, c'est le sacrifice. En sortant de l'arche, Noé bâtit un autel pour l'Éternel et lui offre des animaux en sacrifice. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament sont une préfiguration, c'est-à-dire une image à l'avance du sacrifice unique de Jésus sur la croix. Et il existe un lien profond entre l'alliance établie par Dieu et toutes les créatures terrestres dans notre texte et la venue de Jésus qui sauve son peuple de ses péchés. Pourquoi Dieu fait-il alliance avec les humains et avec la terre alors qu'il constate que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse? La réponse, c'est qu'il a un projet de salut. En pourvoyant un cadre stable dans lequel la vie humaine est possible, Dieu rend aussi possible la venue de Jésus sur la terre. Sa vie, sa mort, sa résurrection, l'annonce de l'Évangile. Si Dieu n'avait pas fait alliance avec la terre, les conséquences du péché de l'homme auraient transformé le monde en un enfer dans lequel il n'y aurait eu aucune place pour l'Évangile. Et ça veut dire que notre texte est l'une des premières étapes de la préparation de la venue de Jésus. Nous vivons dans un monde déchu pour lequel Dieu a un avenir. Et c'est dans ce contexte que nous allons mener notre action sociale, notre action chrétienne dans un monde en détresse. Et ça veut dire que les chrétiens n'auront donc jamais une approche, entre guillemets, purement humanitaire des situations de pauvreté et de marginalisation. Nous nous souviendrons toujours que ceux qui vivent dans le besoin, dans la pauvreté, sont des êtres humains créés en image de Dieu qui ont aussi des besoins spirituels, qui ont aussi besoin d'être mis au bénéfice du sacrifice de Jésus pour pouvoir s'approcher de Dieu, qui sont appelés à mettre leur confiance en Jésus et à glorifier Dieu de cette façon. En pratique, ça veut dire ceci. Face à la pauvreté dans le monde, nous allons imiter notre Dieu qui n'a pas abandonné l'humanité et nous allons faire du bien dans les petits actes de la vie quotidienne. Nous allons aider les pauvres et ceux qui sont marginalisés parce qu'ils sont nos semblables, qu'ils ont été créés en image de Dieu et que nous voulons vivre le message du Christ qui nous a dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous de même faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes » Matthieu chapitre 7 verset 12. L'action sociale en vaut vraiment la peine. Elle n'est pas un simple prétexte pour pouvoir évangéliser les pauvres. Mais nous allons aussi nous souvenir que Dieu est le Sauveur. Ça impliquera de prier pour ceux que nous voulons aider, pour tous leurs besoins, pour leurs besoins matériels, relationnels, sociaux, mais aussi spirituels. Il n'y a pas d'action sociale chrétienne sans prière. Peut-être pourrions-nous commencer par cela. Apprendre à consacrer du temps à la prière pour ceux qui vivent dans la détresse, que ce soit dans nos temps de prière personnelle ou communautaire. Nous souvenir que Dieu est le Sauveur, cela impliquera aussi d'être attentif aux occasions d'annoncer le message de l'Évangile à ceux que nous voulons aider, de saisir ces occasions et parfois de les créer aussi. Une implication sociale chrétienne ne séparera jamais de façon radicale l'évangélisation et l'action sociale et dans un certain nombre de cas, elle pourra les associer de façon toute naturelle. Les bases de l'implication sociale du chrétien que nous venons de souligner sont donc les suivantes. Dieu n'a pas abandonné l'humanité et sa création après la chute et il a pourvu à un cadre stable pour que la vie humaine soit possible. Nous devons investir ce cadre et aider les autres à y trouver leur place, en particulier ceux qui ont du mal à y trouver leur place. Les autres humains nous sont proches et sont créés en image de Dieu. Dieu a un plan de salut et une espérance qui passe par le sacrifice de Jésus. En pratique, les actions que nous pourrons mettre en œuvre sur de telles bases seront très diverses. Elles varieront d'un individu à l'autre, d'une église à l'autre. C'est à chacun de se demander devant Dieu ce qu'il doit faire en termes de prière, de dons financiers, de dons de temps, de changement dans son style de vie, d'implication dans des actions militantes peut-être, ou de vocation professionnelle. Dans tous les cas, apprenons à construire sur le fondement de la grâce, parce que c'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui permet tous les nouveaux départs, qui ouvre toutes les espérances. Et c'est le sacrifice de Jésus qui nous conduit à chercher à faire du bien ensuite à ceux que Dieu place sur notre chemin. Que Dieu fasse en sorte que des pauvres puissent aussi en profiter. Amen.